Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
11h midi avec vous en direct pour commenter l'actualité. Je vous redonne le numéro de téléphone 0826 300 300. On attend vos réactions au micro de Sud Radio. Alors, je suis aujourd'hui en compagnie de Christophe Bordet. Bonjour, rédacteur en chef à Sud Radio, que vous entendez tous les matins dans la matinale de Patrick Roger, qui débat avec véhément ses talents.
Quand Darmon est là.
Oui, quand Darmon est là, c'est...
Si c'est pas Darmon, voilà. C'est le grand chef Sioux, hein, vous voyez. Qui
absolument,
je veux dire.
Absolument. Donc,
l'ancien conseiller de Sarkozy, vous voyez qui c'est ?
Absolument.
L'ancienne plume.
Monsieur Guénaud.
Voilà.
Voilà. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour. Bonjour. Christophe Bordet, j'ai déjà dit, décidément. François de Closet, journaliste, écrivain. Bonjour.
Bonjour.
Et Xavier Iacovelli, bonjour. Vous êtes sénateur PS des Hauts-de-Seine et vous êtes un soutien de Luc Carvounas. Voilà. Alors, pas mal d'actualités aujourd'hui. On pourra dire quelques mots d'Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture, un président qui va au contact. On va parler de la Syrie, les bombardements qui continuent. Et moi, je me pose cette question, à quoi sert l'ONU ? L'ONU qui s'indigne, l'ONU qui tempête, l'ONU qui demande à ce que ça s'arrête, et ça ne s'arrête pas. Au contraire, la SNCF, c'est évidemment le sujet du jour avec le gouvernement et Édouard Philippe, donc, qui vient de dévoiler son plan de réforme. Il vient d'annoncer donc qu'il y aurait bien des ordonnances. Et puis, quelques mots peut-être sur Sylvie Vartan qui sort de sa réserve. Qu'en pensez-vous ? Allez, SNCF, donc le gouvernement dévoile son plan de réforme. La France est-elle prête à ce grand chambardement ? Est-ce qu'on peut craindre un nouvel épisode comme ce qui s'est passé en 1995 ? Pour vous résumer, en gros, Édouard Philippe donc a annoncé qu'il réformerait par ordonnance. Il a annoncé la fin des statuts des cheminots pour les nouveaux entrants. Il n'a pas vraiment parlé de la dette, hein, de la SNCF. Il est resté assez flou. Il a dit l'État prendra ses responsabilités. Voilà. Et il a donc annoncé qu'il n'y aurait pas de changement sur les petites lignes, pas de fermeture de petites lignes. Donc c'est assez habile, me semble-t-il, puisqu'il se met le grand public dans la poche. Hein, les petites lignes seront respectées, donc tout le monde est content. Et puis les cheminots, les méchants cheminots, eh bien, ils verront, pour ceux qui arriveront, leur statut réformé. François de Closet, vous qui vous êtes intéressé de longue date à la fonction publique, il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui ont osé cette grande révolution.
Et tout le monde le sait.
Oui.
Et pourquoi ? Parce qu'il y a deux mensonges qu'on entretient sur ce sujet. Le premier, qui est idiot de ne pas expliquer les choses, qui est qu'il y a eu un décalage de près d'un siècle entre le train, la voiture et l'avion. Le résultat, c'est que tout le monde l'oublie. La seule possibilité de se déplacer en France, c'était le cheval ou le train, presque jusqu'en 1950. Et donc, la France a été ferroviaire. Et le train allait partout. Il y avait près de 500 000 cheminots. Et quand les autres moyens de transport se sont développés, évidemment, il a fallu changer tout cela. Il n'y a plus que 150 000 cheminots. Bon,
ouais.
Personne n'a voulu dire « c'est ça notre problème ». Et on a à faire une immense mutation. Bon, deuxièmement, pourquoi on a du mal à la faire ? Pour une seule raison, qu'on cesse de nous raconter des histoires. C'est le pouvoir de nuisance des cheminots. En France, on se fout de l'utilité des gens, on se fout de leur malheur, on ne s'intéresse qu'à leur pouvoir de nuisance. Les cheminots ayant la possibilité de bloquer la France, eh bien, on s'est dépêché de ne rien faire et de laisser pourrir la situation. Tout le monde savait ce qu'il fallait faire, ce qu'il y a dans le rapport Spinetta, d'une façon ou d'une autre. Personne n'a voulu le faire. Maintenant, il faut se mettre au boulot parce qu'on est à la limite.
En quoi est-ce que les cheminots sont responsables de la catastrophe actuelle de la SNCF ? On a entendu le Premier ministre parler d'un diagnostic très sévère du rapport Spinetta. Il parle d'un service de plus en plus cher pour un service qui marche de moins en moins bien. Il parle d'une situation alarmante, pour ne pas dire intenable. Donc moi, je veux bien que les fonctionnaires soient des privilégiés.
L'État n'y est quand même pas pour rien dans la situation actuelle.
Et si l'État n'a rien fait, et l'exemple de 95 le prouve, c'est parce qu'il a eu peur du blocage de la France par les cheminots.
Mais c'est pas les cheminots.
La situation actuelle dans laquelle se trouve un certain nombre de lignes, et notamment les petites lignes, c'est quand même bien à cause de choix politiques qui ont été faits et stratégiques, qui étaient qu'on a tout misé sur la grande vitesse, sur la LGV, sur les TGV, et que les TER, on a laissé un peu courir en se disant, bon, de toute façon, hein, c'est la France rurale, c'est la France d'en bas, on s'en fout, etc. Bon, voilà, c'est ça la vérité. Alors aujourd'hui, on nous dit, ah non, mais on ne va pas toucher aux lignes TER, comme le préconisait d'ailleurs le rapport Spinetta. C'est vrai que Spinetta, quand on reprend finalement la carrière qu'il a eue, on peut dire qu'il a été orné de grands succès, hein, ce patron de gauche. Franchement, pas terrible, terrible. Bon, bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, le Premier ministre, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit les régions vont pouvoir s'occuper de manière encore plus importante et plus flagrante des lignes TER. Ouais. Vous savez pourquoi ?
Non.
Parce que depuis 5 jours, les présidents de régions sont montés au créneau en gueulant comme des veaux, si je puis me permettre, pour dire « Non mais attendez, vous ne touchez pas aux TER, sinon... » Il l'aurait touché aux lignes TER. Parce que vu de Paris, si vous voulez, c'est pas très compliqué. Hein.
Non, mais Macron alors, le président Michel Macron Taube. A une révélation. Là. Il a passé une journée, 12h30 avec les agriculteurs.
Oui, le monde rural,
Il sauve les lignes TER. Voilà, c'est le président des champs. On connaissait le président des villes, maintenant, voilà. Le président des champs. Après, j'aimerais compléter le tableau de François Clozet de façon beaucoup plus prosaïque. Une des raisons pour laquelle je ne crois pas à la capacité des syndicats de bloquer le pays cette fois-ci, c'est que le TGV et le train sont devenus des produits de luxe aujourd'hui.
Ah,
c'est devenu des produits de luxe.
Alors,
les billets train,
je vous confirme.
Ça veut dire que les Françaises ont nettement moins d'adhésion à la marque. On nous dit souvent les Français sont très attachés à la SNCF. Mais moi, je crois que ça n'est plus totalement vrai.
Oui, empêcher les cheminots de faire grève et de bloquer le pays.
Ils ne pourront pas faire grève s'ils n'ont pas le soutien large de l'opinion publique.
Vous croyez qu'en 1995, ils avaient l'opinion publique
avec eux ?
Non, aujourd'hui,
honnêtement, je pense qu'aujourd'hui...
Il n'y avait pas le service minimum. Leur grève n'a tenu que sur l'opinion.
Déjà, la loi a changé. Je ne pense pas qu'ils aient la même adhésion de l'opinion publique aujourd'hui.
Alors, on a Pascal du Lot et Garonne avec nous. Bonjour. Ah non, on a Jeff, pardon, Jeff qui nous appelle de Lozère. Bonjour. Bonjour, Jeff. Oui ?
Ah, pardon.
Oui, vous aviez posé le téléphone.
Oui, oui. Non, vous m'entendez là ?
Oui, oui, on vous entend, allez-y.
Voilà.
Qu'est-ce que vous voulez
alors,
nous dire ?
Alors, juste, moi c'était pour dire, je suis content, le monsieur qui vient de parler, je ne sais pas son nom là, il a entièrement raison en ce qui concerne le TER, parce que je faisais partie de, je vais vous dire, situer la zone géographique où j'étais à Mende, en Lozère. Voilà, donc c'est une ligne TER qui, il y a 40 ans, puisque j'ai fait 45 ans sur cette ligne, marchait normalement, on va dire, à 60-70 km/h. Et qu'est-ce qu'ils font ? On n'avait pratiquement plus rien pour l'entretenir, on entretenait ça comme on pouvait, donc ces lignes, on les a baissées pour pas qu'il y ait de problème, je dirais, pour les voyageurs, les lignes sont restées à 40 km/h. Voilà, oui. Elles ont baissé à 40 km/h. Alors moi, je vous appelais surtout pour une chose. Je vais essayer d'être assez rapide. Voilà, parce que franchement, en ce qui concerne la réforme, alors déjà, premièrement, que ça soit moi ou mon épouse, moi je suis cheminot, mon épouse à l'éducation nationale.
On est à la retraite. Ça va la vie.
Oui, non, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Quand on dit cheminot, où vous travaillez, vous dites j'étais cheminot. Oh là là, déplanqué. Alors là, je vais vous dire, s'ils veulent faire une réforme, j'ai rien contre, à une condition, qu'ils prennent cas par cas, parce que là, ça va pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que l'endroit où j'ai travaillé, alors je suis pas un cas exceptionnel, puisqu'on était toute une équipe, c'est des coins où on travaille à 1200 mètres d'altitude, par des temps pas possibles l'hiver, où on est obligé de dégager la neige avec les moyens du bord, pour que l'autorail puisse passer. C'est pas les lignes TGV, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on pourrait en parler toute la soirée de ça.
Donc,
il y a des agriculteurs de montagne qui gagnent aussi 3 francs 6 sous en étant à la montagne et c'est pas facile l'hiver,
ils
gagnent beaucoup moins. Non, mais il y a beaucoup moins que les cheminots qui travaillent dans des conditions difficiles.
Mais ce monsieur vient de condamner, vous l'avez compris, le statut des cheminots.
Pourquoi ?
Il vient de nous rappeler, et il a raison, que beaucoup de personnel à la SNCF subit des contraintes exceptionnelles et qui doivent être, en tant que tels, compensées. Et que par conséquent, il est absurde de traiter tout le personnel de la SNCF, du même
de
biais.
De la même manière.
Donc, il vient condamner le statut des cheminots. Merci beaucoup.
Alors...
Alors, moi, je veux bien
Xavier
qu'on
Iacovelli.
Voilà, je veux bien qu'on mette toute la responsabilité la dette, notamment de la SNCF, du rapport Spinetta, qui dit en gros les méchants cheminots, les méchants fonctionnaires, c'est la faute.
Raconte ça.
La réalité, c'est que les cheminots, c'est pas populaire. Et donc, on voit bien qu'il y a une espèce en ce moment, c'est les coupables, c'est les fonctionnaires, les coupables, c'est les illettrés, les coupables, c'est les cheminots. Non, il n'y a pas de fantasme. En l'occurrence, moi, je voudrais juste reprendre une étude du Boston Consulting Group, quand même, qui place le réseau ferroviaire français parmi les plus performants d'Europe. D'accord ? Derrière la Suisse et la Suède.
Pris un train en Suisse, c'est juste une calamité. Mais
non, justement.
Vous
voyez comme quoi. Mais oui, donc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, on part vers une privatisation du réseau ferroviaire français. Alors que ça marche bien. Globalement,
ça
marche bien.
Excusez-moi,
j'attends de voir parce que aujourd'hui, on diminue petit à petit les horaires de certaines petites lignes sous prétexte que c'est pas rentable. Et après, on nous dira,
il va les améliorer.
Moi, j'attends de voir. Encore une fois, depuis des années, quels que soient les gouvernements, on réduit les horaires. Donc, il y a moins de monde. Et s'il y a moins de monde, c'est pas rentable. Et on se dit, on va fermer.
Vous dites, on est les troisièmes meilleurs. Mais enfin, lui, il parle d'une situation alarmante, pour ne pas dire intenable.
Et donc, on n'a pas effectivement les mêmes éléments. Moi, je suis désolé, je prends régulièrement le train. Alors, effectivement, je suis élu francilien, donc j'ai un petit peu moins de problèmes.
Ça va, trains arrivent à l'heure en Ile-de-France
À peu près.
Ah, tant mieux.
À peu près.
Allez, on va se retrouver, on va continuer ce débat. 0826-300-300, appelez-nous, vous avez la parole sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Et le débat continue sur Sud Radio, 0826-300-300. Que pensez-vous des annonces donc faites par le Premier ministre qui s'en prend au statut des fonctionnaires? Il veut en finir pour des fonctionnaires, des cheminots, justement fonctionnaires. Pour ceux qui vont arriver, ils n'auront plus le même statut. Il part d'une situation alarmante et il a annoncé donc qu'il prendrait des décisions par ordonnance. On en parle donc avec Xavier Iacovelli, sénateur PS des Hauts-de-Seine, François Closet, journaliste écrivain, Christophe Bordet, rédacteur en chef à Sud Radio, et Michel Taupe, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Alors, on a des auditeurs qui veulent réagir. On a Mathieu qui est en ligne avec nous. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour à tous. Merci.
Bonjour.
Écoutez, on peut toujours débattre de manière éternelle sur le statut des cheminots. Bon, on peut reconnaître que c'est vrai que le statut personnel des cheminots, quoi qu'ils en disent, est quand même très différent de l'immense majorité du statut des salariés en France. Donc on est tous d'accord pour le dire. Moi, à la limite, ça ne me dérangerait pas qu'ils gardent leurs privilèges, leurs avantages, même si c'est un peu dépassé et peut-être un petit peu abusif sur certains côtés. Mais je regarde, moi, un chiffre qui m'effare, c'est entre 46 et 50 milliards de dettes de la SNCF. Mmh, ouais. Donc si les comptes étaient à jour, je dirais que le statut de cheminot serait pour moi un détail dérisoire. Mais quand je vois les comptes affolants entre 46 et 50 milliards de dettes, je n'oublie pas de noter aussi qu'il y a 10 milliards de fonds publics chaque année pour enflouer les comptes. 10 milliards de fonds publics, ça veut dire quoi, mesdames et messieurs? Ça veut dire c'est vous, c'est moi qui renflouons ce trou
800 euros par foyer fiscal français.
Voilà, ouais. Donc c'est ce problème.
Presque 1000 d'ailleurs, enfin on est plus proche des 1000 maintenant.
Quand vous dites que les Français sont très attachés à la SNCF, je dirais oui, un peu par force et par dette financière. Ouais. Donc moi j'ai envie de vous dire, dans tous les cas, ils n'ont pas le choix, parce que qu'est-ce qui se passe? Depuis 20 ans, la Commission européenne de Bruxelles a décidé, par idéologie de la concurrence forcenée, d'ouvrir tous les métiers à la concurrence. La SNCF va devoir y passer. Donc où
et d'ailleurs
dans une vision monopolistique de leur marché, et la concurrence va tout faire exploser, ou ils anticipent un tout petit peu, et c'est déjà un peu tard, et on se prépare à cette concurrence.
Oui. Non, mais d'ailleurs, la question qui se pose derrière tout ça, effectivement, puisqu'on applique finalement la règle voulue par Bruxelles, et c'est à cause de cette règle et cette ouverture à la concurrence que la SNCF ne peut pas finalement rester quelque part dans le statut dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Il faut que ça devienne effectivement une entreprise.
C'est une très bonne nouvelle parce que l'ouverture à la concurrence, qui s'appelle tout simplement la liberté de circulation des personnes, des biens et des capitaux, mais là en l'occurrence c'est des personnes par le voyage, ça va tout simplement amener la SNCF à améliorer ses services aux voyageurs.
Alors ça on l'espère.
C'est pas sûr.
Quand on voit en Grande-Bretagne la privatisation du réseau ferroviaire,
moi j'y crois. La concurrence qui est souvent maudite en France, elle permet à une entreprise monopolistique.
Non, mais si ça doit être de la concurrence pour tirer encore vers le bas la qualité de service, comme ça arrive.
Et donc du coup de fermer les lignes non rentables. Parce que la réalité, elle est là.
Au final, c'est quand même dramatique.
Il faut tout de même être raisonnable. Je reviens sur ce que je disais. La France de 1950 était entièrement ferroviaire. On ne se déplaçait qu'en train ou à cheval. Depuis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué...
Non, mais on ne peut pas à la fois.
Dire qu'il fallait garder la France ferroviaire au développement de l'automobile.
On ne
peut pas sans arrêt nous dire la voiture, on ne veut plus l'avoir en peinture parce qu'elle pollue, et en même temps nous dire plus de trains sur les lignes TER. Il y a un problème quand même.
On peut, d'un autre côté, vous dire que la répartition de la population française sur l'hexagone a changé, que les modes de transport ont changé, que de ce fait, des lignes qui fonctionnaient pour la satisfaction de tout le monde il y a 50 ans peuvent se retrouver aujourd'hui n'avoir plus beaucoup de voyageurs.
Mais c'est une question d'aménagement du territoire ensuite. Si on supprime les lignes dans les territoires, on n'a plus d'entreprise.
Vous pouvez imaginer qu'il y a d'autres moyens de transport que le train.
On augmente la fiscalité écologique dans certains cas, notamment.
Constater que l'utilisation d'une ligne est arrivée à un niveau tellement bas qu'on a intérêt peut-être, je n'en sais rien.
Il faut d'abord connaître les raisons de l'utilisation aussi. Parce que moi, je pense que les horaires...
On va obliger les gens à retourner
Écoutez, je vais vous prendre un exemple. Moi, je suis allé à Limoges la dernière fois pour présenter, notamment dans le cadre du congrès du Parti Socialiste, la motion de Luc Carvounas. Je suis allé à Limoges et je me suis dit, je vais faire l'aller-retour. Limoges, c'est pas très très loin de Paris. Alors déjà, je mets 4 heures pour y aller, enfin 3h45. Et puis, le dernier train pour rentrer sur Paris, c'est 20h. Limoges, c'est une grande ville quand même, 20h. Pourquoi ? Il y a un vrai problème aussi d'horaire. Ouais. C'est pas rentable parce qu'il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de monde parce qu'il n'y a pas assez d'horaire.
Enfin, tous ces problèmes d'horaire ne sont pas apparus aujourd'hui, et le gouvernement de gauche avec Hollande n'y est pas pour rien non plus.
Tout le monde veut un train à l'heure qui lui convient, une gare dans son village.
On a
un auditeur qui nous sur Twitter qui nous dit en Angleterre le rail est privatisé depuis 20 ans. Un usager britannique dépense 14% de son revenu mensuel dans les transports, 6 fois plus que la moyenne en Europe. En janvier 2018, 60% des Britanniques étaient en faveur d'une renationalisation du rail. Sur ce qui a été dit ce matin, le fait de déclarer qu'il allait faire passer par ordonnance ces réformes, est-ce que c'est...
Moi, personnellement, je trouve ça évidemment peu démocratique. Alors après, évidemment, comme il l'a... On a un vrai débat démocratique à l'Assemblée nationale,
Est-ce qu'on a besoin d'un débat démocratique ? On a surtout besoin de réformer le statut de la SNCF.
Je propose qu'on supprime le Parlement pour sauver
l'entreprise. Il y a des députés dans ce pays.
Et des sénateurs.
Sur les ordonnances travail, sur la loi travail, elle a été réformée par les ordonnances. Il y a eu 55 réunions, il y a eu des débats au Parlement.
Mais on n'est pas dans une république, c'est tout simplement la Ve République.
Et la Constitution.
Il ne faut pas en abuser non plus. À partir du moment ordonnance plus ordonnance, il n'y a plus de Parlement.
On a Pascal du Lot-et-Garonne en ligne avec nous. Pascal, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe et bonjour à vos intervenants sur le plateau. Je n'apprécie pas qu'on critique l'écart, qu'il soit Macron ou autre, parce que je viens d'entendre un de vos intervenants. Parce que l'écart, on en a quand même bien besoin, puisque depuis 1971...
Mais il n'y en a pas assez.
Et il y en a pas,
tout à l'heure, il y en avait trop. Maintenant, il découvre les
cas. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît.
Oui, laissez terminer, Pascal.
La moindre des politesses, c'est d'essayer de terminer.
Allez-y, oui, oui, non, vous avez raison.
En tant que chauffeur de car, je fais une ligne régulière qui, depuis 1971, c'était des trains qui ont été supprimés. En 1971, Mont-Sampron, Libos, Cahors. Nous sommes des cars régionaux maintenant. Nous travaillons 7 jours sur 7, c'est-à-dire que nous avons des rotations. Alors quand j'entends que la SNCF n'est pas contente du changement de statut, pour les nouveaux à venir, c'est pas pour les anciens, c'est pour les nouveaux. Donc ça n'a rien à voir. Eh bien je dis que c'est très bien qu'il y ait un changement de statut, mais pas dans le système où il faut que ça passe au privé. Car la SNCF est un service public, comme nous les cars régionaux sommes un service public. Nous on est privatisés parce que c'est des entreprises privées à laquelle il y a des appels d'offres. Nous sommes payés à 1500 euros par mois pour transporter 55 personnes sur des routes merdiques. Je dis bien merdique, où parfois même les automobilistes poussent à ce qu'on passe pas sur certains endroits parce que on les gêne. Voilà comment sont considérés les cars régionaux. Et alors comment les gens de la SNCF se permettent de râler parce qu'on va leur supprimer des petits acquis? Mais des acquis, on les a tous les jours, ces gens-là. Ils ne payent pas le car quand ils montent à bord. Pourquoi les autres les payent? Pourquoi sur les mairies, c'est marqué égalité, fraternité? Elle est où, la fraternité? Elle est où, l'égalité?
Ouais.
Alors, ça suffit. Ouais, ouais. Mais par contre, qu'on ne mette pas la SNCF au privé, ça, c'est non, on n'a pas à le faire. Ça doit rester public, ça doit rester à l'État.
Quelle est la différence entre le conducteur du car et... le conducteur du train,
le
cheminot peut bloquer le pays, il a un pouvoir de nuisance. Le conducteur du car, s'il fait grève, tout le monde s'en fout, il n'a pas de pouvoir de nuisance. En France, on ne rémunère que le pouvoir de nuisance.
Ce que vient de dire monsieur est très intéressant. Je voudrais juste une ligne que je connais entre Bordeaux et le Nord-Gironde, donc la frontière avec la Charente-Maritime. C'est abominable.
Ouais.
Carte départementale, enfin du Conseil général, donc, il y a deux allers-retours par jour. Deux allers-retours. Comment voulez-vous, alors, les gamins qui prennent le car pour aller au lycée à Bordeaux, eh ben, ils vont au bord de la route départementale tous les matins, il n'y a même pas un abri, il n'y a rien, etc. Ils attendent, alors c'est très tôt, il faut être là à 7 heures, parce que sinon après c'est fichu, on ne va pas au lycée. Bon, mais il n'y a pas assez de cars. Moi, je veux bien qu'on enlève des trains, mais il faut mettre plus de cars. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Normalement, c'était un débat sur la SNCF, mais bon, évidemment, on dévie sur les cars.
Mais la SNCF investit dans les cars, donc ça concerne aussi
la SNCF. Mais il n'y en a pas assez.
Est-ce que le gouvernement va arriver à faire passer cette réforme? C'est quand même le premier gouvernement qui s'attaque effectivement à la SNCF.
Moi, je suis assez d'accord sur l'idée que quand même, les syndicats, ils ne vont pas bouger beaucoup le bout de leur nez. Ils vont faire un peu de bruit, notamment le patron de la CGT, parce qu'il faut bien qu'il existe quand même.
Qui survive, etc.
Avec sa voiture, son chauffeur et son garde du corps, parce que pour un patron de la CGT, ça me fait bien marrer. Quand même, on dirait un ministre. Peu importe. Il va faire un peu de bruit, mais je pense pas que ça ira beaucoup plus loin. La grève du 22, ça va pas être si énorme que ça, à mon avis. Alors, vous savez pourquoi il a choisi le 22 mars?
Non.
22 mars 68,
oui.
C'est le début du mouvement que l'on connaît au mois de mai à Nanterre.
C'est symbolique.
Allez, on se retrouve dans quelques instants. On va parler aussi du Salon de l'agriculture dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio en direct sur Sud Radio. Ben oui, évidemment, puisqu'on est en direct tant qu'à faire. 0826 300 si vous voulez réagir au sujet d'actualité. Emmanuel Macron, notre président de la République, était donc au Salon de l'agriculture. Un président qui a passé un temps record. Je ne sais pas s'il avait le Guinness Book des records avec lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour sa première visite, il a effectué un véritable marathon. Donc presque 13 heures. Évidemment, il a été soufflé, comme tous les présidents. Mais il a voulu leur répondre, interpeller les zig, comme il a dit, qui lui sifflaient dans le dos. C'est vrai que le Salon de l'agriculture, ça suscite toujours, on se souvient de Nicolas Sarkozy.
Ouais. Les coups de menton des présidents entourés de 12 gardes du corps, ça me fait toujours rire.
Ouais.
Mais bon.
Bon, on a eu François Hollande qui avait le précédent record, aimait bien venir. Oui, mais comme
pas
Jacques
de coup de
menton,
bizarrement.
Non, mais justement, il avait une
empathie.
On n'avait
pas une méthode à la Sarkozy.
Non, mais c'était viril, comme ils sont non, où, amenez-les-moi, plutôt que siffler, ouais. Planquer, venez non, mais voir.
Venez, entouré de 12 gardes du corps.
Moi qui aime bien chatouiller notre cher président de la République, moi je voudrais quand même saluer ce qu'il a fait hier. Honnêtement, il
samedi.
A pris du temps. Samedi, pardon. Mmh. Il a pris du temps. Il a écouté les personnes. Moi, j'ai plein de retours d'agriculteurs qui ont dit « il nous a écoutés ». Il a pris le temps de les écouter.
Il connaît les dossiers.
Il connaît le dossier. Il a été courageux. Il a été au-devant des sifflets, effectivement. Et ça, je pense que c'est une attitude de personne responsable et courageuse. Donc, franchement, je trouve qu'il a une journée dans son quinquennat, restera comme un moment de vérité. C'est un petit peu comme l'affaire Whirlpool entre les deux tours, où il a été au contact directement des personnes qui lui cherchaient maille à partir. Et ça a été un moment de vérité et un tournant du deuxième tour. Donc franchement, moi qui suis plutôt macronien critique, on va dire ça comme ça.
Vous avez trouvé
qu'il a parlé cash, et donc effectivement le président des champs, on l'a un peu découvert après le président des villes.
Ouais, c'est ouais, parce qu'il a adopté une poule.
Il a une poule. Non,
parce qu'il a bossé sur le sujet, parce qu'il a fait les états généraux de l'alimentation, parce qu'il a reçu 1000 jeunes agriculteurs 2 jours avant à l'Élysée, parce qu'il a pris du temps de les écouter. Après, évidemment,
moi, je veux voir
les actes après, mais en termes de communication.
Sur le fond, alors on verra ce que ça donne, évidemment. Cela étant, l'impression qu'il laisse, c'est que enfin un président de la République, que j'ai envie de dire, semble vouloir s'occuper sérieusement des problèmes de l'agriculture. Parce que souvenez-vous quand même, bon, Chirac, moi je l'ai suivi plein de fois au salon, il allait taper le cul des vaches et il mangeait une rondelle de mortadelle, il buvait plusieurs, et puis 3 litres de vin ou de bière, peu importe. Il était très sympathique, hein, Chirac, au salon, vraiment, tout le monde l'aimait. Bon, voilà. Après, dans les faits, derrière, c'était application d'une politique européenne avec les quotas, les machins, les trucs, et puis point barre. Là, on a un président qui dit « ça ne va pas, je mets tout sur la table, et maintenant, il va falloir désosser le mammouth, si je puis dire, et puis refaire quelque chose de peut-être un peu différent. Le fait de dire aux agriculteurs « vous fonctionnez peut-être pas correctement, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça va pas dans vos cultures et qu'il faut avoir une autre approche, etc. » Bon, c'est remettre en cause leur travail, mais c'est bon pour eux aussi de se remettre en cause quelque part, parce qu'effectivement, on est face à une concurrence européenne, on est face à une concurrence mondiale, et que ça serait quand même bien qu'on se dise à un moment qu'on va faire des produits qui seront peut-être meilleurs, de plus grande qualité, différents, qui vont nous différencier des autres. Et au final, ça ne peut que nous rapporter. C'est ça, en gros, ce qu'il veut dire. Et moi, je trouve ça très bien. Voilà.
Donc, il a dit ce qu'il avait à dire. Alors, François de Closet. Et il va faire ce qu'il a dit, apparemment, aussi.
Oui, vous savez, l'exercice du Salon de l'agriculture, tous les présidents le font, et de loin, celui qui était acclamé, c'était Chirac.
Oui.
Chirac, qui est le pire ministre de l'agriculture qu'ait connu la France, qui est celui qui est à l'origine de tous les problèmes que connaît la France, qui a engagé la France contre la volonté de l'Europe, faut pas l'oublier, dans l'agriculture productiviste, et qui l'a enferré, et qui est toujours populaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été le ministre de l'agriculture. Mmh. Il a été le ministre des agriculteurs et de la FNSEA.
Exactement.
Et c'est pour ça. Donc, aujourd'hui, alors que les agriculteurs sont dans telle difficulté, dire des choses qui les mécontentent, c'est plutôt à mettre à l'actif de l'homme politique, parce qu'on voit bien ce qu'à dire aux agriculteurs ce qu'ils voulaient entendre, ce qu'a toujours fait Chirac. On voit comment on a détruit l'agriculture française.
Alors que là, il s'est adressé à eux avec certaines vérités, en leur parlant du glyphosate. On a Jacques de Marseille qui voulait réagir. Jacques, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci, on est content de vous avoir sur Sud Radio. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite du président Macron ?
Alors, sur un plan général, on sait très bien qu'entre la parole des politiques et les actes, il peut se dérouler un certain temps. Ça, c'est la première des choses. Après, il est très sympa, le président. Il nous conseille d'être riche. Ça doit faire plaisir aux agriculteurs qui gagnent 400 euros par mois pour bosser 12 heures par jour dans la bouse des vaches. Alors, est-ce qu'il ferait mieux avec le cerveau de Macron dans les mêmes conditions ? J'en suis pas persuadé. parce qu'ils subissent une concurrence déloyale des viandes qui viennent de l'étranger. Bon, ils ont des concurrents qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. Bon, moi, je pense que c'est normal qu'ils aient des états d'âme.
Oui. Moi, je crois que, juste une chose, par rapport à la concurrence dont le monsieur vient de parler à l'instant, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, ils subissent de plein fouet la concurrence de viande étrangère, etc. Ça va peut-être s'aggraver, on ne sait pas, avec les contrats qui pourraient naître, le Mercosur, donc les contrats avec les pays d'Amérique du Sud, le poulet brésilien, la javel, enfin, que sais-je, etc. Mais moi, je voudrais quand même juste dire une chose par rapport à la concurrence. On peut toujours nous parler de concurrence déloyale. On oublie toujours que les agriculteurs français sont bien contents de vendre d'exporter, aussi leurs produits à l'étranger. Oui. C'est ça la vérité.
Est-ce que
c'est
la proportion est la...
Souvenez-vous quand la Russie dit stop aux pommes françaises il y a quelques années de ça. D'ailleurs, on n'a toujours pas regagné le marché à l'heure qu'il est.
Et l'embargo.
On avait les boules.
Et l'embargo vis-à-vis de la Russie qui coûte très cher à l'agriculture française.
C'est tout. Mais exactement.
Mais la proportion, est-ce qu'elle est la même? Est-ce qu'on exporte?
Mais non, on est largement exportateur.
Exactement.
On est une puissance exportatrice.
Moi, Xavier Iacovelli.
Oui, moi, ce n'est pas vraiment le coup de com' ou la communication, la forme en soi de sa venue au salon de l'agriculture, pourquoi pas, on en a parlé tout à l'heure. Moi, c'est plutôt qu'est-ce qui sort du salon de l'agriculture sur les propositions pour les agriculteurs, justement. Effectivement, l'auditeur tout à l'heure parlait d'une moyenne de 400-450 euros de salaire par mois pour les agriculteurs, donc c'est une vraie difficulté. Aujourd'hui, c'est qui aussi en partie qui mange les marges? C'est les distributeurs. Aujourd'hui, moi, j'ai rien entendu du président sur les grands distributeurs, sur sur les grandes surfaces, sur les grands distributeurs. On n'entend rien. Il n'y a aucune proposition.
Les états généraux de l'alimentation.
Mais quand il dit qu'il faut partir du prix de production pour fixer le prix de vente, vous ne pouvez pas venir derrière et dire « Ah, il ne dit rien sur la distribution ». Là, c'est de la polémique politique.
Ce n'est pas une polémique politique. Moi, il y a une autre proposition, une proposition de loi notamment qui émane de l'Assemblée, qui passe au Sénat dans quelques temps, sur la revalorisation des petites retraites pour les agriculteurs qui sont principalement en dessous du seuil de pauvreté et donc qui augmenterait d'une centaine d'euros. Oui. Voilà, moi j'attends du soutien aussi du gouvernement sur cette proposition de loi qui aujourd'hui c'est pas le cas encore.
Alors
donc,
on a
un certain nombre de propositions concrètes.
Oui, vous pourriez
c'est bien les grandes
300
annonces.
Euros aussi,
non, bah, écoutez, je vous invite à vivre avec moins
c'est
de 800 euros de retraite.
Non, la compassion n'a jamais nourri personne.
C'est juste du concret, c'est des faits, monsieur.
Le but des états généraux de l'alimentation et justement de garantir un revenu plus important aux agriculteurs.
J'attends de voir effectivement
concrètement ce que ça va donner. Alors
Alain qui nous appelle
de l'Ariège. Alain, bonjour.
Oui, bonjour, je suis Alain Rivière, éleveur dans l'Ariège. D'abord, je vous remercie de me prendre à l'antenne. J'entends parler depuis ce matin sur votre radio, mais sur toutes les radios en général ou à la télé, de la biodiversité, du glyphosate, des pesticides, de l'importation d'animaux aux hormones, etc., de viandes aux hormones. Mais vous savez, en France, on a tout ce qu'il faut. On a toutes les plus belles races du monde. On a les meilleurs programmes de sélection du monde. On a des qualités sanitaires exceptionnelles. Et là, nous, dans nos Pyrénées, dans les Alpes, dans les montagnes en général, les Alpes du centre de la France ou les Pyrénées et les Alpes, on nous a mis des loups, des ours, qui sont en train de mettre à bas le pastoralisme, qui sont en train de ruiner tout l'élevage français. Qu'y a-t-il de plus bio, qu'y a-t-il de plus sain que ces animaux qui pâturent et qui entretiennent les paysages, en plus, dans nos Pyrénées, dans les Alpes, etc. Ils mangent que de l'herbe, une flore exceptionnelle de qualité et de biodiversité. Mais... la biodiversité, le bien-être animal, la saveur des aliments, elle passe par là, elle passe par la vie des hommes et l'implantation de l'élevage.
Mais est-ce que vous trouvez que, par exemple, le président Christian de la République a pris les bonnes décisions sur le plan loup, puisqu'on sait qu'on va pouvoir tuer un quota et qu'en même temps, on va protéger l'espèce?
Moi, c'est quelqu'un à qui je faisais beaucoup confiance, lui et M. Hulot, etc. Ils se moquent de nous. D'abord, ils ne répondent pas à nos demandes. Ils n'ont pas daigné nous recevoir. Sachez qu'en France, il y a eu l'an dernier, rien que pour les loups, 11 741 victimes dénombrées officiellement par les organismes de l'État qui ont été massacrées par les loups. Un peu moins de milliers par les ours dans les Pyrénées. Rien que dans l'Ariège, 265 attaques reconnues en 120
qu'est-ce que,
jours.
Mais qu'est-ce que, vous lui aviez de demandé, qu'est-ce que vous lui aviez demandé au président de la République?
On lui a déjà demandé de pouvoir lui expliquer comment fonctionnait le pastoralisme et quel était l'intérêt à la fois vital au niveau de la biodiversité, au niveau de l'économie, au niveau de la bonne production de produits. Vous savez, nous, on ne sait pas ce que c'est dans les montagnes. Là, le glyphosate, les insecticides, mais on ne sait pas ce que c'est parce qu'il n'y a pas de culture. C'est normal. Hein, c'est pas, je n'ai pas d'a priori particulier avec, avec d'autres productions. Mais donc, simplement, ce qu'on lui a demandé, c'est de nous recevoir. Monsieur Hulot, on lui a écrit 10 fois, mais je veux dire tous nos élus, les professionnels, les chambres d'agriculture, etc. Il n'a pas encore daigné nous recevoir.
Donc en résumé, vous êtes en train de dire que vous avez dit au début, vous aviez confiance dans ce nouveau président et que là, vous êtes déçu.
Ah ben ce sont des mots, des communications. Et je ne vous parlerai pas de la manière dont ils donnent les consignes à ces préfets dans tous les massifs pyrénéens ou alpins pour régler le problème de la prédation. Ça c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui on est en train de vivre. Vous savez, le pastoralisme va mourir et les éleveurs avec. Ce ne sont pas des mots choisis que je vous dis. C'est la réalité. Si on continue à nous laisser des ours et des loups qui n'apportent absolument rien, mais absolument rien. Les isards, les lagopèdes, toute la faune des Pyrénées ou des Alpes, c'est quelque chose de merveilleux, toute la flore aussi. Oui. Les ours et les ours.
Vous avez une très belle région. Mais effectivement, on a entendu votre cri de détresse et on espère que le président de la République écoute Sud Radio. Il évoquait Nicolas Hulot qui a décidé de ne pas aller au salon de l'agriculture. Je voulais quand même qu'on dise quelques mots.
Il a la pétoche.
Oui, vous dites qu'il a la pétoche.
Évidemment, enfin attendez, ça va maintenant, on a compris. Hein, après son affaire d'il y a 15 jours, il n'ose pas aller au salon.
Il a peur de se faire siffler.
Ce serait plus que siffler.
Évidemment,
ça serait vraiment des huées. Et c'est vrai que si on compare Macron et Hulot, c'est certain que Macron, il arrive beaucoup mieux à affronter l'adversité et aller au devant de ses adversaires, alors que Nicolas
Hulot. Il y a moins de renoncement, peut-être.
Certainement aussi. Et Nicolas Hulot aurait beaucoup de mal à gérer la situation.
Dans son interview du JDD, si on la lit attentivement. Il a une approche qui est assez intéressante parce qu'il dit en gros
pondéré,
qui est plutôt favorable à l'agriculture et en tout cas au développement d'une certaine agriculture, ce qui peut s'entendre aussi, etc.
Mais l'agriculture est condamnée à l'écologie, ce qui est évident. Il a raison.
Oui, avec il a évoqué des aménagements pour le glyphosate,
par exemple,
exceptions.
Oui, mais si vous voulez là
mais
encore,
mais pourquoi pas hein.
Il fait l'expérience du réalisme et je dirais que c'est civiquement très intéressant. Vous comprenez, il était à soutenir les gens de Bure contre le stockage des déchets radioactifs. Là, il est au gouvernement. Et qu'est-ce qu'on en fait des déchets radioactifs? Ben oui, ils sont là. Alors, dire simplement...
Mais il est confronté à la réalité.
Oui, c'est ça.
Et il est confronté à la réalité. De la même façon pour le glyphosate, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut du jour au lendemain produire sans glyphosate? Non, on ne le peut pas. Donc, il faut aménager une transition. Et il est confronté et il est intéressant que l'on sache à quel point il adhère aux exigences écologiques et que par conséquent, quand il dit ben non, là, on peut faire ça, mais on ne peut pas faire autrement, c'est en tenant compte de ces exigences écologiques. Et je crois qu'au contraire, si on avait un ministre de l'écologie qui ne s'est jamais soucié de l'écologie, on dirait, comme il s'en moque comme de sa première chemise, l'écologie n'est pas présente. Je pense qu'il est très normal et que l'écologie soit présente dans le gouvernement avec quelqu'un d'engagé comme Nicolas Hulot et que ça se traduise par le fait qu'effectivement, il ne peut pas être le militant qu'il a été quand il est le
ministre
en responsabilité.
Allez, on continue ce débat. On a d'autres appels au 0826-300-300. On y revient dans un instant.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez André Bercoff dans tous ses états juste après. Je suis en compagnie de Christophe Bordet, rédacteur en chef à Sud Radio, Michel Taub, fondateur du site d'information Opinion Internationale, François Closet, journaliste, écrivain, et Xavier Iacovelli, sénateur PS des Hauts-de-Seine. Et on a Christophe qui nous appelle de Hongrie. Vous nous appelez de Hongrie, vous nous écoutez en Hongrie, Christophe ?
Oui, bonjour, bonjour madame.
Bonjour.
Oui, voilà. Donc, voilà, je me permets de vous appeler. Non, je ne suis pas en Hongrie, je suis en Bulgarie, pardon.
Ah, en Bulgarie, pardon,
c'est
d'accord.
C'est pareil,
non, c'est pas
côté.
Tout à fait pareil. Ouais.
Non, voilà, je vous appelle, c'est parce que je suis un petit... c'est très, toujours très intéressant, parce que je vous écoute très régulièrement. Et donc, j'écoute Sud Radio régulièrement, d'ailleurs, aussi bien du matin, parce qu'avec Philippe, monsieur...
Philippe David, voilà.
Après, et voilà, enfin, tout ça...
Très bien.
Bon, je passerai les formalités. Donc, voilà, je suis un petit peu surpris, c'est que les sujets sont très intéressants. Attendez, j'écoute...
Oui, il faudrait que vous baissiez votre radio, parce que ça fait un peu
voilà,
un écho. Ce sera mieux, on sera entre nous, comme ça.
Voilà.
Alors, d'accord. On vous écoute.
Donc, alors, je suis un petit peu surpris, c'est parce que les sujets sont intéressants, et on ne va jamais au fond des choses, alors que, bon, mon avis personnel, c'est que nous avons un gouvernement de communication. Sans plus, pas plus. Ça va la communication, mais ça s'arrête là. Maintenant, on ne va jamais au fond des choses avec les traités européens. Parce que aussi bien la SNCF que les paysans, que le monde paysan, excusez-moi, que le monde paysan, tout s'arrête avec, c'est commandé par l'Union européenne. Donc à partir de là, on ne va pas au fond des choses, on ne peut pas satisfaire toutes les revendications de la population, ou travailleuse, ou administrative d'ailleurs. Voilà.
Et donc vous voulez nous dire oui.
Je pense que les invités pouvaient aller au fond des choses pour bien expliquer ça aux auditeurs, je crois que ce serait...
Sur quoi? Sur le traité européen, c'est ça? Sur,
oui, voilà, tout à fait.
Alors, Michel...
Nous parlions d'agriculture, quand même, l'Europe a beaucoup aidé l'agriculture française pendant des décennies, il en déplaise à certains agriculteurs. Moi, j'aimerais saluer la Bulgarie, parce que je connais bien la Bulgarie pour y avoir été des dizaines de fois lorsque les infirmières bulgares étaient condamnées à mort en Libye. Et j'ai milité pendant 2 ans là-dessus avec beaucoup de Bulgares et de Français Bulgarie. Bulgarie qui préside l'Union européenne d'ailleurs actuellement. Non, l'Europe, contrairement à ce qu'on dit très souvent, c'est facile de décrire l'Europe. L'Europe a été décisive pour sauver l'agriculture française et lui permettre de se moderniser et d'être aujourd'hui quand même une des premières ou une des deux premières puissances agricoles dans le monde.
Et la politique agricole européenne a été imposée par la France. Et c'est pas
mais
le contraire.
Imposée par les États membres.
Mais non,
l'Europe, c'est nous.
Il y a eu la
grande
bagarre à propos, je vais pas faire l'histoire du rapport Mansholt qui préconisait qu'on réduise la quantité, qu'on mette l'accent sur la qualité, et c'est Jacques Chirac qui s'y est opposé et qui a gagné.
Mais...
Donc, il ne faut pas inverser les choses et venir dire « Ah, l'Europe nous impose une agriculture ». Non, malheureusement, l'Europe voulait nous imposer une autre agriculture, c'est nous qui avons imposé l'agriculture productiviste dans laquelle aujourd'hui le monde agricole est enfermé.
Mais c'est bien ou c'est pas bien pour les agriculteurs, l'Europe?
J'ai envie de dire c'est un peu à double tranchant parce que c'est vrai que depuis 30 ans, les agriculteurs ont quand même bien profité des aides européennes. Souvenez-vous, avec le lait, les quotas laitiers, ils étaient quand même bien contents de recevoir l'argent, bien entendu. Après, évidemment, l'autre partie de l'histoire, c'est que à cause justement de cette Europe qui nous oblige à produire pas plus de tant de tonnes, etc., on s'est retrouvé à jeter du lait à une certaine époque. D'ailleurs, il y en a qui en jettent encore aujourd'hui. On s'est retrouvé avec des terres en jachère qui auraient pu être cultivées. On préférait les laisser en jachère et puis toucher les aides européennes.
Oui,
donc effectivement, on peut se dire... Bon, oui, on a touché de l'argent, on a été mis sous perfusion pour rien faire, et le résultat, c'est que le pays est devenu d'une tristesse absolue, quoi.
Mais ça s'appelle des cadeaux empoisonnés.
Exactement.
Et l'agriculture française, à sa demande, a été intoxiquée de cadeaux empoisonnés, et le jour où on supprime ces cadeaux... Eh bien, elle ne peut plus s'en sortir.
La FNSEA n'y a pas été pour rien depuis évidemment 30 ans, puisqu'ils ont accompagné tout ça. Et aujourd'hui, leur gros problème à la FNSEA, vous savez ce que c'est?
C'est que
Macron n'a pas envie de parler avec eux. Et n'a pas envie de parler avec les corps intermédiaires d'une manière générale.
Je suis d'accord, Christophe. D'ailleurs, au sein de l'agriculture, on a peu vu... la nouvelle présidente de la FNSEA.
Elle était dans la courroie de Macron, mais
oui, mais non,
elle savait même pas les mecs qui sifflaient, elle savait même pas qui c'était. Alors,
Mais c'est vrai que la FNSEA qui défend plus les industriels de l'agriculture que les agriculteurs eux-mêmes. Il y a un problème de représentativité du monde agricole. Quand vous voyez les coopératives qui pratiquent des prix qui étranglent les agriculteurs, mais qui sont les propriétaires des coopératives? Ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Donc il y a vraiment un problème d'organisation du monde agricole qui est terrible.
Oui, Xavier, vous n'êtes pas d'accord avec ça, Xavier Iacovelli?
Ah si, 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 je suis...
Non, je vous voyais faire la moue sur...
Non, je fais la moue parce que... Non, non, pas du tout.
D'accord. Vous êtes d'accord avec moi ou vous n'êtes pas d'accord avec moi?
Je suis plutôt d'accord avec vous.
Ah bon, oui, parce que donc on fait la moue parce qu'on est accablés. Oui, on est tous accablés.
Accablés, bon. Allez, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour parler des bombardements qui continuent en Syrie. Ouais. À quoi sert l'ONU? C'est la question qu'on peut se poser. L'ONU qui exige, le Conseil de sécurité qui exige un cessez-le-feu.
Moi, je suis pas d'accord.
Cessez-le-feu. Ouais.
Écoutez, il y a quand même quelques mois...
On resitue le contexte. Il y a des bombardements dramatiques.
On avait quand même, il y a quelques mois encore, un rapport de l'ONU qui condamnait effectivement les gazages de sa population par Bachar el-Assad. Combien de temps on va laisser le boucher de Damas exercer. Enfin,
mais
je
qui voulez-vous mettre à la place? Il n'y a personne.
Bah, quelqu'un d'autre, ça sera toujours...
Il y a des voyous. Des rebelles,
je suis pas d'accord. Christophe, comment ça, des voyous?
Il y a pas que des voyous.
Attendez, Christophe, comment ça, des rebelles?
Il n'y a pas de solution.
Non, pas des rebelles, pas des voyous, des islamistes radicaux. Voilà, il faut dire les choses.
Il faut nommer les
choses. L'opposition à Bachar el-Assad, ce ne sont pas que des islamistes radicaux.
Je suis pas d'accord. Mais ils sont maintenant largement.
Ils sont majoritaires.
C'est
certes.
Eux qui dominent la situation contre Bachar el-Assad.
Donc on fait
c'est terrible, laisse, mais c'est
on,
la vérité.
On laisse 500 gamins se faire gazer. Ce matin, il y a encore un gamin qui a été gazé au chlore. Et on ne dit rien. On fait des condamnations internationales. Moi, je soutiens Macron et Merkel sur la position, effectivement.
Oui, avec c'est des blabla.
Mais non, mais il faut intervenir. On est capable d'intervenir.
La France et la Syrie, le divorce, il est consommé depuis très longtemps. Et vous le savez bien. La France, dans la région, elle est cuite depuis très longtemps.
Mais non, monsieur Assad,
c'est pas seulement la France.
C'est pas monsieur Assad qui était invité sur les Champs-Élysées un 14 juillet 2007
monsieur Kadhafi aussi a été invité.
Il les a cumulés, monsieur Sarkozy, les invités de marque.
L'ONU, je vous le rappelle, n'est pas un gouvernement mondial.
Non.
L'ONU est un forum.
Une farce.
L'ONU agit très peu. En revanche,
un machin,
dans l'affaire syrienne et face à Bachar el-Assad, oui, il y avait une action qui était possible, qui était prête. Et il y a quelqu'un qui, faut dire, l'a interdite au dernier moment. C'est monsieur Obama.
Obama, bien sûr.
Et François
Hollande était pour cette opération.
Contrairement à ce que vous dites. Du blabla, c'était des bombes qu'on devait jeter sur Bachar el-Assad. Et si ça avait pu le détruire, ça aurait été encore mieux.
En termes d'accès géographique, c'est très important depuis très longtemps pour les Russes d'être dans ce secteur. Donc les Russes, ils ont un accord avec la Syrie depuis très longtemps. C'était le père de Bachar qui avait signé cet accord avec les Russes.
Ouais. Ouais. Autre chose, les médias sont attirés par le côté compassionnel, la mort d'enfants, c'est tragique, et il faut le condamner. Mais l'événement majeur de la semaine dernière, pour moi, ce n'est pas ce qui s'est passé en Syrie. C'est à Bruxelles, l'Union européenne a, après des négociations très très difficiles, voté un budget pour le G5 Sahel, région où des soldats français meurent encore toutes les semaines. Il y a eu encore deux morts la semaine dernière. Et péniblement, la France a obtenu un budget de 400 millions d'euros pour tenter de mettre en place un embryon d'armée africaine, le G5 Sahel, pour essayer à terme de suppléer aux soldats français. Il est hors de question qu'on quitte la région, malheureusement, parce que ça ne serait pas possible. Mais voilà la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des soldats français qui meurent sur des terrains d'opération pour lutter contre l'islamisme radical, et que c'est très, très, très difficile de mobiliser la communauté internationale. Alors qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a des drames, des tragédies qui se passent en Syrie, alors qu'on n'est même pas capable de financer cette armée dont on a besoin pour suppléer à nos soldats qui meurent actuellement sur les théâtres d'opération.
Il faudrait tout de même se souvenir qu'il n'y a qu'une armée en Europe, c'est l'armée française. L'armée française, depuis 50 ans, je vous le signale, personne ne le remarque. Je pense qu'il n'y a pas eu une année pendant laquelle il n'y a pas eu un soldat français depuis 50 ans qui a tiré sur l'ennemi. Mais dans les autres armées européennes, espagnoles, suédoises, etc., depuis 50 ans, il n'y a pas un soldat qui a tiré sur un ennemi. Donc, il y a un décalage incroyable sur le plan du recours à la force entre la France, qui a une armée opérationnelle, et les autres qui n'en ont pas. Il faut dire des choses
enfin, qui n'en ont pas, qui ne veulent pas en avoir. S'ils ont des armées, mais ils ne veulent pas envoyer leurs hommes.
Écoutez, si vous ne voulez pas envoyer vos soldats se battre, c'est comme si vous n'en aviez pas.
Mais là, on est quand même dans une situation, dans une impasse totale. On a le pape François qui lance un appel pressant à l'arrêt des combats. Donc tout ça, ce sont, vous parliez de coups de menton au début, c'est... Il n'y a aucune prise sur Assad aujourd'hui.
Ben, c'est bien le problème. C'est que moi, je pense qu'effectivement, la solution peut venir de la Russie. On en parlait tout à l'heure, c'est l'intérêt stratégique qu'il est avec la Russie. Si Poutine se décide...
Il n'a pas envie.
Ben oui, mais c'est ça le problème. C'est que tant que Poutine n'aura pas décidé de destituer Bachar, on restera dans cette situation-là. Et donc, moi, j'ai confiance et je soutiens en tout cas la position de Macron et Merkel sur ça, sur faire pression sur Poutine pour qu'il puisse prendre une décision.
Mais il faut bien comprendre que ces enfants qui reçoivent du chlore, etc., ces enfants qui se font massacrer sous les bombardements, pour nous, c'est intolérable. Pour Poutine, c'est rigoureusement indifférent. Ouais. Ça n'existe pas dans sa politique réaliste. Est-ce que j'ai intérêt
non,
à...
Non, mais
est-ce
que j'ai il intérêt écoute un là peu Merkel et Macron pour style, pour
voilà,
se donner un style
de force.
Un peu humaniste,
qu'un
si
moment,
je puis dire, mais ça s'arrête
si
là.
Si se trouve qu'à un moment, les pressions qu'on exerce sur moi d'un autre côté font que j'ai plutôt intérêt à arrêter les bombardements. J'arrêterai les bombardements, mais c'est pas du tout, parce que mes bombardements tuent de malheureuses populations civiles. Ça n'entre pas.
Le 18 mars prochain, Poutine sera réélu président de la République de Russie, puisque les Russes aiment Poutine et veulent un Poutine fort. Et voilà, ouais. C'est ça aussi la réalité de la réelle politique internationale.
Voilà. Allez, ne l'oubliez pas, voilà. Poutine
merci,
est populaire.
Merci à tous les quatre. Dans un instant, vous retrouverez André Berkov dans tous ses états. Et moi, je vous retrouve demain à 10h. Bonne journée.